J'avance avec, en te remerciant, en vous remerciant encore, Sylvia, avec la quatrième intervention. Nous avons Gabrielle Godin avec nous. Gabrielle Godin est doctorante en cotutelle en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et en communication, médiation culturelle et humanité numérique à l'Université de Laval, au Québec. Sa recherche porte sur la médiation culturelle numérique et l'éditorialisation dans les institutions théâtrales. C'est le sujet aussi de son intervention. Elle est membre du projet de recherche Arcanes, art, communication, artifices numériques et écosystèmes socio-numériques. Elle possède deux masters en humanité numérique à l'Université Paris 8 et en études théâtrales à l'Université Paris 3. Je peux citer les titres de deux publications de Gabriel Godin, Modéliser les concepts de la désinformation, une méthode pour cartographier les relations dans un système d'information, ou bien Espace liminaire de l'auto-authenticité, une démarche d'humanité numérique. Voilà. Les titres de la communication, dispositif numérique et éditorialisation de la médiation culturelle au théâtre. Quel pouvoir d'agir pour les médiateurs? Je dis pas plus, je laisse Gabriel introduire le sujet et en parler.
Très bien, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Donc voilà, théoriquement, tout y est. Super. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs, Nathalie Coutelet et Julien Dayer. Julien, que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de rencontrer lors des journées d'études Cyberombre, où j'ai accompagné Mathilde Gentil, metteur en scène de Gauche Compagnie, qui est ici présente aujourd'hui lors d'une communication. Et puis, merci également à Giuseppe pour l'articulation de cette séance. Ma présentation va être légèrement différente de celle de mes collègues intervenants, car je ne vais pas partir de cas d'artistes ou de création artistique, mais je vais plutôt parler de cas des institutions théâtrales et des services de médiation culturelle. Effectivement, vous avez vu un peu mon portrait académique, on va dire, mais j'ai également eu la chance de travailler à main d'œuvre en spectacle vivant et de faire de la production en art numérique pour le festival Exit de la MAC de Créteil et pour également le Festival Nemo d'Arcadie. Et puis, c'est justement ce parcours académique et puis cette réciprocité avec les pratiques du numérique qui sont portées à la scène qui m'ont fait réfléchir à la médiation numérique au théâtre. D'abord, qu'est-ce qu'on pourrait définir comme médiation numérique dans le domaine culturel et artistique? Pour donner une description vraiment générale, il serait possible de convenir que la médiation numérique et l'accompagnement des publics au quotidien par la mise en place d'activités de médiation, par l'entremise d'interfaces numériques, dans le but d'enrichir et ou de métamorphoser les interactions humaines qui sont liées à une œuvre, à une institution, à un artiste, par l'intermédiaire de la technique et de la numérisation des archives. C'est aussi sans doute une méthode pour rendre une ressource, un lieu, une personne accessible par la mise en pratique ou par l'initiation technique de l'information. Avec le cas de la crise sanitaire, la médiation numérique peut même servir à maintenir des liens, des interactions, par une communication qui se fait dorénavant à distance. Donc, en 2017, si on revient un petit peu dans le temps, après avoir participé justement à deux festivals d'art numérique, j'ai quand même constaté un écart entre les propositions artistiques qui faisaient appel à des technologies numériques et puis la médiation culturelle qu'on faisait de ces œuvres-là, qui était, elle, plutôt conventionnel et sans usage de dispositifs numériques. Et puis, suite à cette réflexion, je me suis mise à relever des propositions de médiation numérique des institutions production culturelle dans tous les domaines confondus. Et puis, j'en retiens deux principales. Donc, en France, au Canada et puis au Québec, les musées et puis les sites patrimoniaux sont très actifs sur ce plan depuis 10 ans. En dehors de la fonction vitrine qui offre les mêmes services et puis les mêmes informations qu'on retrouve sur des sites Internet, il y a des visites virtuelles d'expositions temporaires ou permanentes, des audioguides pour accompagner les visiteurs pendant une visite physique des œuvres et puis aussi des médiations qu'on appelle situées qui offrent aux visiteurs pendant des activités, soit sur place ou non, qui incluent divers dispositifs comme des QR codes, des pastilles NFC, de la réalité augmentée ou bien encore de la géolocalisation. Pour les bibliothèques, quant à elles, ça fait remonter jusqu'en 1995 et même le début des années 2000 pour l'exploration de la médiation numérique par la mise en accès de points de connexion à Internet, mais également des guichets multimédia qui sont disponibles dans les bibliothèques municipales. Mais si on se rapproche un peu plus d'aujourd'hui, pour ce qui est des applications mobiles ou des dispositifs numériques de médiation, moi, l'exemple le plus significatif et emblématique que je trouve, c'est celui de la BNF avec, par exemple, Gallica ou l'application Candide. Donc, il semble assez évident que les musées, les sites patrimoniaux et les bibliothèques ont repéré assez rapidement l'opportunité que pourrait leur fournir le web pour mettre en relation les activités de médiation, les espaces-temps et puis les œuvres avec les publics. Mais qu'en est-il des théâtres? Eh bien, ça, c'est une excellente question parce que les théâtres, et je parle des institutions, dans l'essentiel, sauf spécialisation dans le numérique, ils semblent avoir fait jusqu'à présent un peu l'impasse sur la médiation numérique et du moins jusqu'à la crise sanitaire qui a, à force des choses, dû s'y intéresser un peu plus sérieusement. La présentation que je vous propose donc aujourd'hui soulève la question suivante dans le domaine du théâtre, à travers l'usage de dispositifs numériques en médiation, quel pouvoir d'agir peuvent espérer les médiateurs culturels? Et puis j'exposerai ici le concept de pouvoir d'agir, celui d'éditorialisation, qui peut nous donner quelques pistes de réflexion et de développement d'initiatives en médiation numérique dans le théâtre. Ensuite, je vais dresser un portrait très rapide le temps étant limité des usages d'outils et des dispositifs numériques dans le domaine théâtral pendant la crise. Et puis enfin, je partagerai une proposition pour l'avenir en accord avec ce que j'expérimente actuellement dans le cadre de ma thèse. Donc voilà, hop! Alors, il y a deux concepts clés dans ma recherche, celui de pouvoir d'agir et puis celui d'éditorialisation, qui est sans doute peut-être celui qui est un peu moins connu du grand public. Si je synthétise la pensée de Claire Jouffré, de Yann Le Bossé ou encore de Bernard Valéry, le pouvoir d'agir dans les sciences sociales, ça désigne d'accéder à un passage d'une situation où on remarque une perte de puissance ou de capacité qui est perçue ou qui est effective et où, face à cette situation, les personnes concernées ressentent des opportunités concrètes d'agir, de se mettre en action pour obtenir un changement pour lequel ces personnes-là ambitionnent. Autrement dit, c'est l'acquisition de l'influence, de disposer de la faculté d'avoir un impact sur ce qui est important pour soi ou ce qui est important pour la collectivité à laquelle on s'identifie. Le pouvoir d'agir prend, et là je cite, j'ouvre les guillemets, simultanément en considération l'influence des forces sociales et des caractéristiques individuelles dans l'analyse de toute réalité sociale. Je ferme les guillemets. Et puis cela vaut notamment dans le cas de la médiation culturelle où la réalité sociale est finalement vouée à une certaine production de liens sociaux et puis de connaissances. Justement, dans la contribution au savoir, le second concept, qui est l'éditorialisation, touche à une notion importante du numérique et de la sphère informationnelle. Un des moyens de transposer le pouvoir d'agir des médiateurs et des publics, c'est de leur attribuer l'accès au cycle de production et de circulation de l'information. Le concept d'éditorialisation regroupe, grosso modo, l'ensemble des dispositifs techniques qui permettent la production, la structuration, puis la circulation des savoirs. En d'autres mots, on peut considérer que l'éditorialisation est comme un processus d'édition illimité dans le temps, mais aussi dans l'espace matériel, qui n'est pas uniquement numérique, et qui ouvre le processus d'édition des contenus à tous pour créer, modifier, supprimer, partager de l'information. De nos jours, les éditions numériques exercent un rôle prédominant dans la production et dans la transmission des connaissances en remodelant le champ d'action de l'édition des savoirs et puis de la création de sens. Ce qui semble particulièrement charmant dans le concept d'éditorialisation pour la médiation, c'est la capacité d'influencer en dehors de la sphère d'Internet sur le monde physique, parce qu'on peut plus nier l'empreinte du web sur nos vies, sur les infrastructures physiques et sur les individus. Le terrain numérique a une frontière tellement poreuse qui interagit avec ce qu'on nomme un peu par abus de langage le monde réel. Et voilà. Alors, face à la crise, qui a été une situation inédite, hein, le domaine théâtral s'est vu obligé de mettre ses activités en suspens, dont celle de médiation, faute de pouvoir accueillir les publics. Encore en décembre dernier et jusqu'à aujourd'hui, les salles de spectacle du Québec ont vu un peu leur élan de réouverture brisé par l'annonce d'une nouvelle fermeture des lieux. Si ce n'est pas encore, ou ça ne sera pas à l'heure du jour en France, la dynamique des théâtres est quand même continuellement impactée aujourd'hui. Et puis des questions se sont rapidement posées et continuent d'ailleurs à préoccuper. Lorsqu'on ne peut plus rencontrer des publics physiquement, comment organiser autrement la médiation? Et puis, quels sont les moyens d'interaction qui peuvent aider à continuer de diffuser des contenus d'œuvres et puis à dialoguer avec les spectateurs? Les théâtres ont dû donc réinventer un peu ce lien avec les publics en renvoyant les moyens et puis les processus qui étaient utilisé autrefois, si on peut dire déjà autrefois. Certainement pris de court par faute d'avoir des outils qui ont été en place, l'alternative des institutions, mais aussi beaucoup des artistes, hein, on l'a vu, ça a été de trouver des solutions inventives comme la prise de rendez-vous téléphonique, des projets radiophoniques, comme on vient de l'entendre, mais aussi, surtout, l'usage des médias sociaux et principalement Telegram, Periscope, mais aussi Facebook Live, des vidéoconférences Zoom comme on expérimente aujourd'hui ou bien des vidéos YouTube live. De ça, on peut quand même observer des efforts hein, pour substituer l'acte scénique, mais un petit peu moins visant à renouveler la réflexion et avoir une réflexion avisée pour renouveler les missions et les activités de médiation culturelle en tant que telle. Je parle vraiment des institutions théâtrales. Ces voies de communication numérique, bien qu'ils démontrent un certain avantage indéniable, peuvent rencontrer également plusieurs critiques. La pandémie fait apparaître en fait d'ores et déjà plusieurs pièges, notamment celui de la consommation numérique à domicile, poussant finalement les publics vers une pratique culturelle d'isolement plutôt que de développer le sens du collectif. Mais aussi cette dépendance envers les écrans. Est-ce qu'elle ne céderait pas davantage la part de la vie culturelle aux puissants GAFAM, envers qui finalement les politiques luttent manifestement depuis plusieurs années pour préserver l'exception culturelle? Et puis, puisque un écran, une vidéo ou un chatroom ne peuvent complètement substituer le rapport avec le vivant, il est quand même urgent, et on a déjà commencé, il est urgent de s'interroger sur le service public qu'accomplit les arts de la scène. Et pourtant, la distance physique entre les acteurs sociaux ne signifie pas inévitablement l'éloignement. Il y a des réponses numériques qui peuvent être pérennes, sensibles, adaptées à la pratique des médiateurs pour renforcer le lien relationnel avec les différents acteurs sociaux, pour conserver les caractéristiques de rassemblement chères au domaine du théâtre. Mais alors, bon, quel pouvoir d'agir, on revient à cette question principale, quel pouvoir d'agir des médiateurs dans le cas où ils doivent utiliser un dispositif numérique de médiation? Eh bien, une des hypothèses que j'avance dans ma thèse, c'est peut-être justement d'arriver à recréer du lien social, de réaliser, malgré la distance, des échanges réels d'idées autour d'une œuvre théâtrale. C'est pourquoi actuellement on expérimente un dispositif numérique que nous nommons le feuillet numérique et qui se veut comme un support aux activités de médiation culturelle. Ce feuillet serait un espace sensible, un environnement de production et de confrontation des connaissances où serait sollicitée la prise de position et l'expression d'un point de vue depuis lequel s'ouvre le débat et l'échange social. L'idée est simple. Le médiateur propose des contenus documentaires, des vidéos, des archives reliées à un spectacle, soit des textes dramatiques, des costumes, des scénographies, des scènes, des parties du lieu du théâtre, les coulisses, le hall d'entrée, etc. Et puis le public est ensuite amené à émettre une opinion selon des axes proposés à l'intérieur d'un crible, d'un sonore, et même voir de proposer eux-mêmes des nouvelles idées, des nouveaux contenus. L'objectif du médiateur est d'amener les publics à réfléchir, à penser à des relations entre les axes, entre les idées qui sont émises, pour pouvoir développer sa sensibilité au contenu qu'on lui propose. Ensuite, les résultats de tous les participants peuvent être cumulés et représentés dans un schéma. Ici, on voit juste un exemple très rapide, dans un schéma où chaque individu peut constater où se situe son point de vue par rapport à l'ensemble des données qui ont été recueillies, par rapport à l'ensemble des autres publics. Et c'est pendant cette étape que le médiateur peut ouvrir le débat et établir un dialogue qui est concret pour comprendre les points de vue et amener la parole entre les publics. Et je pense qu'il est important de penser ce dispositif du feuillet numérique comme d'un passage, hein, on a cette notion de passage qui est dans le pouvoir d'agir, d'un passage vers l'ouverture vers l'autre, vers le dialogue, vers la prise de parole. Pour conclure cette très rapide présentation, le feuillet numérique pourrait rendre efficient l'accès aux connaissances sur les créations théâtrales en permettant un accès efficace, simple, intuitif aux connaissances liées aux productions théâtrales. Et puis, c'est à travers l'éditorialisation, donc à travers l'apport collectif de la production de l'information, d'idées, que le dispositif numérique permettrait à tous les utilisateurs de prendre place au procédé d'édition des contenus documentaires. Le développement de la pensée critique est, pour ainsi dire, stimulé par l'apport d'annotations, de descriptions critiques, pour engendrer des formes d'appropriation personnelle, mais aussi des formes d'appropriation collective des contenus culturels. Aussi par la structuration de l'information qui est présentée par le médiateur et puis le retour de ce dernier vers la parole des individus. Le feuillet numérique crée du lien pour consolider un réseau d'interactions sociales. Le dispositif numérique que nous envisageons vise à créer donc un espace de dialogue entre les utilisateurs où les actions entreprises dans un environnement virtuel produisent une empreinte tangible et pérenne sur un territoire élargi. Et on pourrait même espérer un espace qui devienne un lieu à part entière de débat, de confrontation d'idées, d'apprentissage, de transmission. Et puis finalement, dernier point, je terminerai ici. Les médiateurs pourraient avoir le pouvoir d'emmener les publics à agir pour soulever les obstacles structurels ou physiques et par la voie du numérique, d'élargir le territoire de l'action de la médiation. C'est certainement là où réside le pouvoir d'agir des médiateurs culturels et de faire événement d'un rassemblement autour d'un dispositif qui ferait lui-même retour vers l'individu. Et donc, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et ce sera avec grand plaisir que je pourrai discuter avec vous et avec les autres intervenants pour aller un peu plus loin et puis répondre à vos questions.
Merci. Merci, Gabrielle Godin, de ces présentations sur le principe de l'éditorialisation, hein, la production, la structuration, la circulation des informations. Il est encore une fois question du numérique.